Radio 694.
Des ondes sans frontières.
100.9. Calade.
Une émission réalisée par les élèves pour parler de frontières et de poésie. Radio 694.
Des ondes sans frontières.
Bonjour et bienvenue sur Radio 694 pour l'émission Ondes sans frontières. Je m'appelle Younes, avec moi, des élèves de 4e du collège Jean Moulin, nous animons une émission sur le thème des frontières et de la poésie, en écho au Printemps des poètes de Villefranche. Au sommaire de cette émission, plusieurs invités, des poètes, des responsables culturels et des associations, des professeurs, des élus de Villefranche et des élèves. Tout cela sera accompagné de musique et de poèmes correspondant à notre thématique. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Nous vous proposons de commencer notre émission par les lectures du poème « J'écris frontières » du poète caladois Mohamed El Amraoui. Ensuite, nous écouterons la première rubrique de l'émission qui vous présentera le printemps des poètes dans le réseau du Collège Jean Moulin. Nous remercions notre camarade Amélia pour sa lecture. C'est parti.
J'écris frontières. Et aussitôt, des uniformes bien inspectés, les gris, les herbes et les virgules, les points-virgules. J'écris, ici, c'est une vallée du cœur où l'écho de ton amour vibre encore. Dans le silence de l'autre ciel, celui de mon enfance, au-delà des frontières. Et aussitôt, la touffe de lignes s'éclaircit et la lumière s'infiltre entre les poils de ma fourrure.
Monsieur Laurent Bézet, bonjour.
Vous êtes conseiller pédagogique et vous avez coordonné les actions qui ont eu lieu dans les écoles pendant le Printemps des Poètes. De quoi s'agit-il et cela touche quelles écoles?
Alors en fait, l'idée c'était effectivement de faire travailler les élèves autour de la poésie et travailler aussi sur la création poétique, donc de faire des écrits poétiques, de faire de la mise en voix de poèmes. Et l'idée c'était de faire travailler toutes les écoles qui sont dans le réseau Jean Moulin, sachant que toutes n'ont pas participé, mais ont participé les écoles Albert Camus, Jacques Prévert, Jean Bontou, Lamartine. Et j'en oublie une, la dernière, c'est... je vais la retrouver, Andrea, tout à l'heure, je ne sais plus laquelle c'est, mais je vais la retrouver.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples donnés dans ce cadre?
Alors, dans ce cadre, il s'est passé plein de choses. Il y a des élèves donc, qui ont écrit avec les poètes qui sont intervenus dans les classes, puisqu'il y a 5 poètes qui sont intervenus sur le Collège Jean Moulin et dans les écoles. Et puis, à partir de ces écrits, il y a eu des mises en voix qui ont été préparées, c'est-à-dire que les élèves ont fait des enregistrements. Il y en a qui aussi ont préparé des contraventions poétiques, par exemple, c'est-à-dire à mettre sur les pare-brises, comme si on avait une contravention, sauf qu'au lieu d'avoir à payer quelque chose, ben, on recevait en cadeau un petit poème, soit écrit par les élèves, soit un poème d'un poète connu ou inconnu d'ailleurs, qu'ils avaient recopié. Il y en a qui sont allés aussi dans la rue nationale, proposer comme ça des petites cartes postales poétiques, qui ont dit des poèmes aux passants. Il y a eu une grande lessive poétique sur la place des Arts, où des cordes ont été tendues avec des poèmes qui étaient accrochés avec des pinces à linge. Enfin, plein d'actions autour de cette folle journée de la poésie qui a été un petit peu le point fort du Printemps des Poètes sur Villefranche.
Est-ce que cette opération est bien suivie par les établissements scolaires?
Alors, comme je disais tout à l'heure, tous les établissements ne sont pas rentrés forcément cette année dans ce Printemps des Poètes et dans cette folle journée, mais on espère bien que l'année prochaine, on pourra recommencer. Mais en tout cas, ça fait quand même une quarantaine de classes des écoles primaires qui ont participé, plus une dizaine de classes du Collège Jean Moulin. Donc finalement, ça fait beaucoup, beaucoup d'élèves qui ont été investis dans la poésie et qui ont amené comme ça une sorte de déferlante de poésie dans la ville le 28 mars.
Est-ce que cette... C'est comment pouvez-vous mesurer l'effet de ces actions pour les élèves?
Ah ben déjà, il y a quelque chose qu'on peut mesurer tout de suite, c'est que après le 28 mars, là, j'ai plusieurs collègues enseignants qui m'ont dit que leurs élèves leur ont dit « Mais c'est terminé là, on va arrêter de faire de la poésie ?» Et très déçus. Et heureusement, les enseignants leur ont dit « Mais non, on va continuer à faire de la poésie en classe. » Et que, voilà, les enfants, les élèves se sont vraiment sentis complètement investis, ont beaucoup, beaucoup aimé faire de la poésie un peu différemment que la récitation qu'on fait d'habitude à l'école où on apprend un poème qu'on recopie sur son cahier, qu'on dit tout seul au tableau face à tous les autres. Ils ont fait de la poésie différemment. Ça, apparemment, ça leur a beaucoup plu. Et donc, ils ont très envie de continuer. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et puis, ils ont appris aussi à dire des poèmes à plusieurs. Ils ont appris à écrire des phrases poétiques grâce aux poètes qui sont intervenus aussi. Donc, voilà, beaucoup de choses très positives par rapport à ce projet.
Des événements sont-ils créés par les écoles pour rendre en compte, par exemple, notre atelier radio ?
Alors, hélas, nous, on aurait bien voulu qu'il y ait des élèves du premier degré qui viennent. C'était compliqué parce qu'ils sont en classe à cette heure-là. J'en ai parlé auprès des collègues. Je pense qu'on pourra retrouver l'émission qui pourront les goûter en podcast. Et il y a plusieurs écoles qui ont envie d'entendre ce qui s'est dit aujourd'hui, ça c'est sûr.
Comment et par qui ces actions sont-elles soutenues ?
Alors, il y a plein de gens qui ont soutenu ces actions. Il y a bien sûr, au départ, l'éducation nationale, c'est-à-dire l'inspectrice du premier degré, le principal du collège Jean Moulin, qui ont soutenu cette action pour qu'on puisse travailler dans les classes. La ville nous a beaucoup soutenus. On a eu des financements aussi de la cité éducative par rapport à ce projet. La ville nous a soutenus notamment, plein de gens ont remarqué que dans la ville, il y avait des panneaux, dans les panneaux de cours, il y avait des grandes affiches avec des poèmes écrits par les enfants. Et ça, c'est grâce à Jean-François Galata notamment et son équipe et le service communication de la ville qui nous a permis de faire ça. On a été soutenus par tous les élus qui ont trouvé que c'était un projet qui était intéressant. Donc voilà, on a eu le soutien de tout le monde de ce côté-là au niveau de Villefranche.
Existe-t-il d'autres menées autour du printemps des poètes à Villefranche et lesquelles ?
Pardon, Andréa, j'ai pas compris. Est-ce qu'il existe quoi ?
Existe-t-il d'autres actions autour du printemps des poètes à Villefranche ?
Alors, il y a eu plein d'autres choses qui ne sont pas forcément visibles, mais dans plein d'écoles, il y a même des écoles qui n'étaient pas forcément dans le projet La Folle Journée de la Poésie. Mais j'ai eu plein d'échos aussi de collègues qui, dans leurs écoles, sans forcément sortir de leur école, ont fait beaucoup de choses autour de la poésie. Des brigades d'intervention poétique, par exemple, ce que j'expliquais un petit peu, ce qui s'est fait dans les rues le 28 mars, c'est-à-dire... On va vers les gens, donc ils sont allés dans d'autres classes, ils ont dit un poème comme ça, ils sont repartis et c'était juste un cadeau comme ça, on vient offrir un poème aux autres et donc on a préparé en amont son poème pour le dire correctement, tout seul ou à plusieurs et on va l'offrir comme ça à d'autres élèves, d'autres classes. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans les écoles. Il y en a qui ont fait des affiches aussi. Il y a des enseignants qui ont demandé à leurs élèves de choisir le poème qu'ils préféraient, qu'ils avaient envie de dire et qui, tous les jours, pendant le printemps des poètes, laissaient un élève dire un poème aux autres camarades de la classe. Enfin, voilà, des affiches. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites dans les classes, dans le projet et en dehors du projet.
Merci à toutes vos réponses.
Mais de rien. Merci.
De rien.
Nous sommes accompagnés aussi de deux poètes de l'espace Pandora, Monsieur Thierry Renard et Monsieur Christophe Laposta. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter l'espace Pandora ?
Alors, comme je suis le plus vieux, je vais commencer, puis après je laisserai la parole à Christophe. Ben, l'espace Pandora, en fait, ça me fait drôle d'être ici, parce que l'idée de l'espace Pandora, qui ne s'appelait pas l'espace Pandora, est née dans un collège... à Jules Michelet, à Vénissieux, puisque moi, je suis avec Christophe, nous sommes de Vénissieux. Et je me permets de le dire, parce que c'est important pour moi, on avait une prof de français, enfin, pas Christophe, hein, il n'était pas né encore, mais j'ai eu une prof de français qui m'a donné le goût des mots, de la langue. C'était Madame Latour, et elle m'a fait découvrir la poésie, et particulièrement Arthur Rimbaud. Et avec trois autres collègues de classe, on a tout de suite commencé à faire des choses autour de la poésie, et particulièrement en créant une revue qui s'appelait Aube. J'ai embrassé l'aube d'été, toujours en hommage à Rimbaud. Et du coup, ça fait maintenant quelques années que l'association existe. Et notre mission, justement, ça va pleinement avec le projet de Villefranche, c'est de faire circuler la poésie partout, pour tous et tout le temps.
Eh bien, si moi je dois ajouter, c'est mon rôle à moi dans l'espace Pandora. Alors, je suis arrivé bien après le début de l'histoire de l'espace Pandora. Et ce n'est pas de la faute de mes profs de français, mais c'est pareil, la poésie, ça m'est venu bien après. C'est de la faute de moi-même. Et un jour, j'avais commencé à écrire. Et à l'espace Pandora, ils cherchaient quelqu'un pour faire de la médiation culturelle. Je ne savais pas ce que c'était la médiation culturelle, mais je me suis dit, je vais y aller, puisque je connaissais déjà l'espace Pandora. Je faisais les ateliers avec eux en tant que participant. Donc j'ai passé la porte et maintenant c'est moi qui fais écrire les autres. Donc voilà, mon métier c'est ça, c'est d'aller faire écrire partout, tout le temps. Et ceux qui n'ont pas envie, j'essaye quand même d'y aller, comme ça après ils ont envie de le faire.
Vous êtes intervenu dans les classes à l'occasion du Printemps des Poètes. Quel rôle avez-vous joué dans ce projet ?
Je commence.
On a un duo, il n'est pas tout à fait au point aujourd'hui. Notre rôle c'était juste de donner la... Peut-être d'abord d'expliquer que la poésie, c'est plein de choses différentes. C'est pas justement comme tout à l'heure, c'était dit que c'est quelque chose qu'on récite devant tout le monde. Non, c'est aussi quelque chose qu'on peut écrire. Et donc, notre rôle, c'était de montrer que c'est pas si compliqué que ça et de donner le petit point de départ qui permet à tout le monde de partir en écriture.
Et j'ajouterais que je constate au fil des ans, en rencontrant des personnes de 7 à 117 ans, alors 117 ans, elles sont moins nombreuses, mais qu'on a chacun d'entre nous, quel que soit son niveau de langue, quelles que soient ses passions, quelles que soient ses émotions, a sa petite musique des mots. Et nous, on essaye tout simplement d'aider les personnes, grands et petits, à retrouver leur propre petite musique personnelle.
Quel intérêt avez-vous trouvé dans ces actions et comment réagissent les élèves ?
Tu me mets dans le piège, toujours moi qui commence. L'intérêt déjà, c'est que nous, ça nous permet de rencontrer plein de monde. Donc c'est très personnel, c'est très... Mais voilà, ça c'est un vrai plaisir de pouvoir rencontrer du monde de partout, puisqu'en effet on est sur Vénissieux, donc j'interviens beaucoup dans les classes de Vénissieux, mais quand on m'appelle ailleurs, c'est avec plaisir. Et du coup, j'en ai presque oublié l'autre partie de la question qui était...
Quel intérêt avez-vous trouvé dans ces actions et comment réagissent les élèves ?
Alors, comment réagissent les élèves ? En tout cas, ils écrivent tous et ils écrivent des choses plutôt pas mal. Et après, j'espère qu'en plus, ça leur plaît pour pouvoir continuer. Mais j'ai entendu tout à l'heure que je crois que ça a marché, en effet.
J'ai retrouvé la dernière école. Je disais que j'avais retrouvé la dernière école. C'est quand même, c'est l'école Ferdinand Buisson, bien entendu, qui a participé aussi de façon active à ce projet.
Et moi, j'ai eu la chance d'être ici, puisque tous les ateliers, toutes les rencontres que j'ai pu mener se sont déroulées au collège Jean Moulin. Donc, je suis content parce que tout à l'heure, il y a des élèves qui m'ont reconnu. Donc, j'ai l'impression d'être célèbre.
Tout pour la gloire. Voici son intérêt. Donc, maintenant, il est célèbre, il est content.
Avez-vous des exemples marquants de certains ateliers ?
Je commence, comme ça tu ne te sentiras pas piégé. Oui, il y a eu des très bons moments. Et puis, comme toute aventure de ce type, on était partis avec Alice et Laurent avec un canevas un peu précis. On s'était dit, on ne va pas partir comme ça pour aller dans tous les sens. On va essayer de suivre une ligne à peu près droite. Et puis, on s'est aperçu, au fil des rencontres avec les classes, que d'abord, les classes étaient très différentes les unes des autres. On s'est aperçu qu'il fallait revoir peut-être un petit peu notre fil conducteur, sans perdre de vue les frontières, puisque c'était le thème national cette année du Printemps des Poètes. Mais on s'est aperçu que chaque classe avait aussi, avec les professeurs, bien sûr, sa petite musique collective. Et du coup, il y a eu vraiment une diversité. Moi, ce qui m'a le plus frappé d'une classe à l'autre, ça a été la diversité des productions écrites et puis l'imaginaire. Ça, j'insiste là-dessus parce que je crois que notre monde, qui d'après ce qu'on dit, ne va pas très bien, a besoin de la force de l'imaginaire pour essayer justement de se réinventer.
Comment avez-vous fait pour écrire le plus grand poème du monde ?
Par petits morceaux. Phrase par phrase, puisque moi, par exemple, j'ai fait des interventions dans des classes de CP. Donc une phrase chacun, déjà c'était bien. Puis dans les classes un peu plus grandes, on a écrit un petit peu plus long. Et après, le but du jeu, c'est de rassembler un petit peu tout ça. Thierry, avec les plus grands, il a pu écrire des choses un peu plus longues. Mais voilà, le but du jeu, c'est ça, c'est d'aller prendre tout ce que tout le monde a à dire, que ce soit grand ou pas, et après on assemble.
Je crois qu'on a environ 150 ou 200 poèmes à disposition, messieurs, dames.
Cela concernait beaucoup d'élèves ?
Oui, pas mal, puisque je ne sais pas combien ils étaient en tout, mais moi j'ai fait à peu près toutes les classes qu'il y avait dans l'école Jacques Prévert.
Et moi je suis intervenu avec 10 classes au collège Jean Moulin, plus les trois autres poètes, Laura Tirandaz, Mohamed El Amraoui et Dimitri Porcou. Oui, je crois qu'on a, en tout cas, je crois qu'on a dépassé les 60 heures de rencontres et d'ateliers. Donc, je ne sais pas combien ça fait exactement, mais c'est assez énorme au niveau du nombre d'élèves touchés.
Que va devenir ce poème ? Où pourront-on le voir et le lire ?
On essaye de réfléchir peut-être à la confection d'un recueil. Alors on ne sait pas encore si on va tout garder ou comment les choses vont se passer, mais je pense que ça serait effectivement bien qu'il y ait
Il y aura une trace quoi qu'il arrive. Voilà.
Le thème de cette année du Printemps des Poètes était frontières. En quoi et comment pensez-vous que la poésie peut faire tomber certaines frontières et lesquelles ?
Eh bien, on essaye de faire tomber toutes les frontières. Déjà, les mots, ça voyage facilement dans un premier temps. Donc, on essaye de faire partir les nôtres loin et d'accueillir ceux qui viennent de loin ici. Et après, si on a plus de pouvoir que ça, on verra si on arrive à faire tomber les autres frontières qui retiennent les corps.
Et c'est vrai que ce thème, on s'est aperçu qu'il avait été Alors, à Villefranche, bien sûr, mais un peu partout en France, on a eu des échos de ce qui se passait ici ou là. Et c'est un thème, je crois, qui a été réellement porteur, ce thème des frontières. Alors bien sûr, comme vient de le dire Christophe, il y a les frontières réelles, les frontières entre les pays. Parfois, ça entraîne des conflits. Mais il y a aussi toutes les barrières mentales, toutes les frontières qu'on se fixe nous-mêmes. Et je pense que l'un des objectifs aussi de telles actions, et de la poésie en particulier, c'est d'abolir ces frontières, encore une fois, je me permets d'insister parce que ça me paraît très important, et d'aller vers ce qu'un poète que j'aime beaucoup, André, que vous lirez peut-être les unes et les uns et les autres, André Ardelet a écrit la promenade imaginaire. Et je crois qu'une action de ce type, c'est aussi entraîner tout le monde vers une promenade imaginaire.
Merci à vous deux de toutes vos réponses.
Mais de rien, merci à
vous. Merci.
Madame Solange-Sombardier, bonjour.
Bonjour, Elissa.
Vous êtes professeure d'une classe SECPA au collège Jean Moulin. Pouvez-vous nous dire ce qu'est une classe SECPA ? Et comment elle fonctionne ?
Alors, c'est une bonne question, merci. SECPA, ça veut dire section d'enseignement général professionnel et adapté. Alors, clairement, c'est donc une classe du collège. En général, les élèves sont tenus à des enseignements du programme du collège, comme tout collégien. Professionnel, parce qu'ils ont donc, à partir de la quatrième, des ateliers de découverte professionnelle. Puisque le travail principal, c'est l'orientation après la troisième, et adapté parce que ce sont des élèves qui sont donc encadrés par des professeurs spécialisés. Donc on est dans une observation fine des besoins des élèves et dans le cadre de l'enseignement, on adapte les supports en fonction de leurs besoins pour qu'ils puissent apprendre le mieux possible durant leur collège.
Qu'avez-vous mis en œuvre pour vos élèves dans le cadre du Printemps des Poètes ?
En français, je travaille beaucoup avec la pédagogie de projet, qui est donc une pédagogie avec laquelle on produit quelque chose. Et le Printemps des Poètes m'avait quand même beaucoup inspirée. Avec les élèves, on a fait plusieurs choses. On a fait donc un arbre à poème. Donc c'était en fait un arbre sur lequel on avait suspendu des feuilles et sur chaque feuille il y avait des QR codes et des enregistrements audio des productions des élèves. On a aussi distribué des badges nomades en rue nationale. On a été donc en classe avec des collègues et puis donc on interpellait les passants et on distribuait, on expliquait un petit peu que c'était donc la folle journée de la poésie et que voilà, on partageait avec les passants nos badges. On a également créé un jardin poétique avec des fleurs et dans chaque fleur, les élèves avaient écrit des petits poèmes. Donc en ouvrant la fleur, on pouvait découvrir une lecture poétique. Voilà.
Merci. Quels sont les bénéfices de tels ateliers pour vous et vos élèves par rapport à un cours classique ?
Alors, les bénéfices, j'ai envie de dire qu'il y a à différents niveaux. Le premier, pour moi, le principal bénéfice, c'est que les élèves de SECPA participaient à un projet comme les autres élèves du collège. Donc, c'était plutôt un objectif qui relevait de l'inclusion. Ensuite, il y avait un objectif de travail au niveau de l'estime de soi. Engager des élèves dans des projets pour qu'ils puissent les mener jusqu'au bout, les réaliser et les montrer, ce sont des choses qui peuvent mettre en avant les capacités des élèves qui, souvent, les élèves de SECPA ont un petit peu souffert à l'école. Et donc là, c'était montrer des belles choses. Donc ça me paraissait intéressant à ce niveau-là. Et puis évidemment, un objectif disciplinaire, puisque en français, travailler l'oral, c'est quelque chose qui... L'oral et l'écrit, c'est une approche... La poésie, c'est quand même une approche, sensible du français. Voilà, ça me paraissait intéressant d'engager en tous les cas cette classe de SECPA dans ce projet-là.
Ces ateliers viennent-ils en complément au travail scolaire ?
Évidemment. Évidemment, la poésie fait partie du programme du collège en quatrième. C'était en complément de tout ce qu'on fait durant l'année.
La poésie est peut-être un monde à part pour les élèves. Comment ont-ils réagi ?
Alors, c'est vrai que quand on annonce le thème en classe, la première réaction n'est pas forcément celle attendue. Les élèves peuvent un peu rouspéter en disant « Oh non, il va falloir que l'on dise de la poésie devant tout le monde. » Voilà. Donc, la première action n'est pas forcément très positive. Et puis, justement, on montre que la poésie, elle a des intérêts. Et les élèves en quatrième, en tous les cas, savaient très bien ce que c'était que la poésie. On a pu faire un nuage de mots avec les mots qui leur venaient à l'esprit. Et en fait, il y avait des choses très, très, très sympas qui sont sorties. Et donc on a pu travailler sur les représentations de ce qu'était la poésie et c'est un projet que finalement les élèves ont aimé faire et on n'était pas sûr de pouvoir sortir la journée du 28 mars dans la rue parce qu'il fallait régler des choses au niveau organisationnel. Ils étaient un petit peu déçus. Oh non, on va pas pouvoir y aller. Oh non. Puis finalement, on était contents de le faire. Voilà.
Les élèves ont-ils créé leurs propres poèmes et certains vous ont-ils surpris ?
Oui. Alors oui, les élèves ont créé leurs propres poèmes. On a eu la chance d'accueillir Monsieur Renard dans notre classe, qui a été un vrai rayon de soleil et qui a réussi, il faut vous le dire, hein, qui a réussi à mettre en confiance les élèves. Et leur production a été vraiment de qualité et assez longue. Moi, je ne m'attendais pas à ce que les élèves produisent, en tous les cas, travaillent. Parce que l'atelier a duré 2 heures, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, l'atelier a duré 2 heures, ce qui peut être un peu long, des fois, sur une séance de français en SECPA. Et finalement, ça a été presque court. Hein. On a été très contents de cette intervention. Et les élèves eux-mêmes. Donc ensuite, j'ai partagé à l'équipe. J'ai dit, regardez, on a une réunion quotidienne en SECPA où toute l'équipe SECPA se retrouve. Et là, je présente le travail des élèves parce que quand c'est de qualité, on est toujours très fiers de montrer les productions.
Merci. Nous avons aussi Mehdi Mechri, élève de 3e 5 au collège Jean Moulin, en tant que témoin. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Tu t'es porté volontaire pour présenter les élèves qui ont participé à ces actions. Peux-tu nous raconter ce que tu as fait lors de cet atelier ?
Alors, lors de cet atelier, nous avons créé des poèmes avec Monsieur Renard. Et nous avons dû faire des poèmes sur le thème que nous voulions. Et voilà.
Avant cet atelier, connaissais-tu la poésie et tu en pensais quoi ?
Non, je ne connaissais pas la poésie. Et sincèrement, je ne m'intéressais pas trop.
Comment as-tu vécu cette rencontre ? Est-ce impressionnant de rencontrer un poète vivant ?
Pas forcément, mais oui, je l'ai bien vécu cette rencontre, parce que c'est très intéressant.
Est-ce que tu as eu l'impression d'apprendre et de progresser ?
Oui, j'ai eu l'impression de progresser, parce qu'on a dû passer devant tous les élèves de la classe. Et du coup, voilà.
Est-ce que ça t'a donné envie de continuer de lire ou d'écrire de la poésie ?
Ça m'a donné envie de lire, oui, mais d'écrire, pas forcément.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Notre émission va se poursuivre après une pause culturelle avec le poète Mohamed El Amraoui pour une interview et la lecture de poèmes créés par des collégiens.
Bonjour Monsieur El Amraoui, vous êtes un poète caladois et vous intervenez dans les écoles. Pour vous, la poésie, c'est quoi et quelle est son utilité ?
Ah, c'est quoi la poésie ? C'est une question très très vieille. Et pendant très longtemps, on l'a définie par la forme, c'est-à-dire tout ce qui obéit à une métrique, comme les alexandrins, les octosyllabes, etc., et tout ce qui est rimé. Et puis à partir de la fin du 19e et surtout au 20e siècle, on a commencé à lire aussi des poèmes traduits. Et donc il n'y a pas de rime, il n'y a pas de métrique. Et pourtant, c'était quand même de la poésie. Et beaucoup de poètes aussi commençaient à écrire des poèmes librement, en dehors de ce moule sonore métrique, musical. Et pourtant, la poésie est toujours musicale. Donc, qu'est-ce que c'est la poésie ? C'est très difficile, en fait, de la réduire à une définition précise. Alors, du coup, la poésie ou le poétique est un peu partout. Donc, tout ce que j'ai... À chaque fois que je donne une petite définition, il me vient à la tête quelque chose presque pour la contredire. La poésie, c'est vraiment quelque chose qui est rebelle à la définition. Enfin,
parlez-nous de votre activité avec les élèves. Comment procédez-vous et qu'apporte la poésie aux élèves ?
Oui, j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture avec des élèves dans les milieux scolaires, pas seulement les milieux scolaires, un peu partout, mais dans les collèges, les écoles primaires, les lycées, un peu à la fac aussi. Et c'est aussi peut-être pour que les élèves soient attentifs à la langue. La langue et les mots, le vocabulaire, n'est pas là que pour la communication directe, n'est pas là que pour exprimer une demande immédiate, genre donne-moi le cahier qu'elle a, donne-moi le sel, donne-moi le... Ça permet aussi d'exprimer des choses qu'on a à l'intérieur. intérieur et quelquefois juste un désir d'exprimer quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est et on prend des mots et à partir des mots, il y a un thème qui surgit et la poésie sort à ce moment-là. Donc, avec les élèves, oui, c'est juste leur dire que d'abord, écrire, c'est un droit, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas donné juste à quelques-uns qui sont très intelligents, qui ont fait un parcours scolaire exceptionnel. Non, non, la poésie peut donner naissance à ce quelque chose qui est très important dans l'apprentissage, en général, du savoir, c'est le plaisir d'écrire. De dire « Ah, je ne suis pas jugé, d'une part, il n'y a pas de jugement d'appréciation. Dans les ateliers, on n'est pas noté. » Et chacun essaye d'écrire avec ses capacités, ses limites. Et c'est l'essentiel. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Je ne sais pas trop, mais des fois, on voit des élèves qui sont en difficulté, qui tout d'un coup, ils ne se sentent pas jugés, comme je viens de le dire, et ils commencent à écrire, et ils découvrent que c'est possible, effectivement, de jouer avec les mots. Et le jeu peut devenir assez sérieux, en fait, on exprime quelque chose à partir de ce jeu-là. Et puis, je le redis encore, c'est vraiment pour que les élèves découvrent le plaisir de la langue, le plaisir de jouer avec elle.
Quel rapport voyez-vous entre la poésie et les frontières?
C'est évident, la poésie, c'est tout le contraire des frontières. Des frontières au sens artificiel, les frontières qui sont là pour séparer ceux qui ne voudraient pas être séparés, d'une certaine manière. Alors, je m'explique. Mais en même temps, les frontières, il y a des frontières, la peau est une frontière qui nous protège de l'extérieur. La frontière aussi qui est nécessaire à protéger, c'est les territoires de chacun de nous. Je n'ai pas le droit d'aller toucher comme ça quelqu'un que je ne connais pas. Ça, c'est une frontière quand même nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à la liberté de l'autre, à son territoire intime, par exemple. Ça, la poésie aussi protège cette frontière-là.
Merci, monsieur El Mraoui, pour votre participation.
Merci à vous aussi.
Maintenant, nous allons vous faire écouter trois poèmes créés par des élèves lors des interventions de M. El Mraoui à l'école Albert Camus de Villefranche.
Je vais lire en fait trois fragments, on va dire, trois fragments d'un poème collectif assez lent, en fait, parce que le but c'était d'arriver à écrire le poème le plus long du monde. Quelle ambition, n'est-ce pas? Mais belle ambition. Donc ça serait trois fragments qui sont écrits par plusieurs élèves, on va dire. Au-delà des frontières, j'écrirai le mot « liberté ». J'éclairerai avec ma lampe magique le chemin sombre. Je dessinerai des montagnes transparentes. Je dessinerai des flocons en forme de cœur. Au-delà des frontières, j'écrirai des lignes dansantes sur mes cahiers noirs. Je sourirai aux photos des enfants qui sont sur le mur de l'amour. Je traverserai les pays debout sur la mer. Au-delà des frontières, je laisserai la guerre derrière moi. Je dessinerai à la place du malheur un champ de fleurs. Je regrouperai les pays séparés et la froideur de l'air et des cœurs ne me séparera pas de mon âme sœur. J'enterrerai mon hamster mort à la guerre. Je retrouverai l'arbre torsadé entouré de langues inconnues au-delà des frontières.
Je pars, ma vie est trop maussade. Je pars, j'ai laissé une feuille incrustée de mots sales. Je pars, laissez-moi donc ma douleur. Je pars pour un monde fait de lumière et de couleurs. Je pars, car le ciel est bas écrit. Les vieux n'ont plus de sagesse, ils sont racistes et gris. Je pars, je m'envole vers le rire des enfants. Je pars, même s'ils m'en veulent, j'ai trop souffert dans mes tourments. Je pars, j'ai déjà fait mes valises. Je pars, car nos modes de vie d'ici me scandalisent. Je pars, la vie me transperce de part en part. Je pars, car faut être fort et moi j'ai perdu mes remparts. Je pars, y'aura ni promesse ni nouvelle. Je pars, fallait du cran, j'ai activé la manivelle. Par un beau matin, je pars, je laisse le flambeau. Je trouverai mon Abyssinie, moi l'Arthur Rimbaud. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour la saison des pluies. Je pars, hier, demain et aujourd'hui. Je pars, parti pour la vie. Je pars,
viens avec moi si t'as envie. Je pars pour un rayon d'ombre. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres. Je veux juste un chapeau de paille, une plage et un transat. Oublier les charters, les aéroports dans lesquels on transite. Je veux des nuits douces au ciel étoilé, scruter la galaxie. S'il n'y a pas de laxisme, on voit jusqu'à la cataplexie. Je veux manger du riz au curry et des mangues juteuses. Je veux pas de leur vache folle qui rit à la fièvre rafteuse. Et puis soleil qui tannerait ma peau, luisante sous la pommade. Ici on m'appelle négro, y a pas de place pour nos pommades. Je veux que mes pommettes, mes zygomatiques s'échauffent toute l'année. L'ami, les choses qu'ils promettent d'être condamnés à glaner. Sur sample de guitare sèche, je veux des gens simples et des sourires. Ici c'est rare qu'on me supporte, qu'on ouvre les portes et les serrures. Je veux vivre sur des rythmiques, des mélopées, me libérer de mes chaînes car la culture m'a menotté. Hey, je veux que tu viennes, allez, rentre dans mon monde. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie.
Vous venez d'écouter la chanson Je pars, interprétée par Gaël Faye. Gaël Faye est un auteur, compositeur, interprète, rappeur et écrivain franco-rwandais. Il a vécu la guerre civile du Burundi en 1993 et le génocide des Tutsis, ce qui a provoqué sa fuite pour la France à l'âge de 13 ans. Il a décidé de devenir chanteur car pendant son adolescence, il découvre le hip-hop et le rap. Il trouve dans la musique un moyen de sortir de sa douleur de l'exil. Dans le morceau « Je pars », Gaël Faye parle de son envie d'ailleurs et d'une autre vie. Pour la suite de notre émission, nous allons écouter la lecture du poème « Adieu à l'Estancia » écrit par Jules Supervielle. C'est notre camarade Hussein Medine qui vous propose ce texte. Ensuite, nous passerons à la rubrique suivante intitulée « Franchir les frontières, ma migration ». Je vous souhaite tous une bonne écoute.
Partout où nous vivons, notre rêve s'attache. Par un lien étroit, invisible mais fort. Un voyage soudain trouve en nous un cœur lâche et nous sentons qu'il neige au loin sur notre sort. Il nous faut, pour quitter les lieux où nous vécûmes, déchirer quelque chose au moment de partir. Tout à coup, nous avons comme un grand repentir, comme si nous quittions le soleil pour les brumes.
Radio 694, des ondes sans frontières.
Bonjour Monsieur Concalves. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre histoire, de vos origines et des raisons qui vous ont poussé à quitter votre pays pour émigrer?
Bonjour d'abord. Bon, moi je suis originaire de la Guinée-Bissau. Je suis né en tant que Portugais et après je suis devenu Guinéen-Bissau. À notre époque, moi j'ai vécu la guerre, la lutte de libération de la Guinée-Bissau, qu'on a fait contre le Portugais. La lutte de libération a duré 11 ans. À partir de là, on est devenu indépendant. Il y avait un seul parti, le Parti Unique. Ils sont rentrés avec la politique africaine. Là, c'est arrivé un moment où on ne s'entend pas. En tant que musicien, on faisait des critiques. On était obligé de fuir, d'émigrer et de réfugier ici en France. Je suis un réfugié politique ici en France depuis 1987. Et là, bon, notre pays maintenant s'est développé avec la démocratie, bon, mais ce n'est pas encore bien, bien, bien. Résumé, c'est à peu près ça.
Pourquoi avez-vous choisi la France et comment s'est déroulé votre voyage?
Le voyage, c'était difficile parce qu'on est passé par plusieurs étapes. On passe avec des faux papiers, papiers des autres, on paye gauche-droite pour y arriver jusqu'à ici. Et on a choisi la France parce qu'à l'époque, avec la France Terre des Îles, la cohésion c'était mieux pour nous. Portugais, ça n'aide pas à cette époque. Nous, on était colonisés pour Portugais, mais ça n'aide pas à ce niveau-là. Et en tant que musicien, on voulait faire de la musique aussi, mais ce n'est pas facile. Après, je suis tombé dans les bâtiments, et j'ai fait ma vie, j'ai élevé mes enfants, et je suis là jusqu'à aujourd'hui.
Quelle a été votre première impression en France? Qu'aimez-vous et que regrettez-vous dans votre nouveau pays?
Mon arrivée ici en France, ça me donne envie d'avancer parce qu'ici en France, il y a de la concurrence. Ce que vous travaillez pour y aller devant. Mais sauf que dans mon pays, ce n'est pas le cas. Ce qui est bon, ils sont derrière. Ce qui n'est pas bon, ils sont devant. C'est ça, pour ça qu'on est là.
Quelle est votre situation? Avez-vous des papiers et quelles ont été les démarches, les aides et les difficultés pour pouvoir vivre en France?
Non, au début, j'avais des difficultés en tant que réfugié politique. J'ai passé 5 ans sans avoir des papiers. À l'époque, avec le papier de réfugié de 3 mois qu'on renouvelait quand, chaque fois, on pouvait travailler. Moi, aujourd'hui, on ne peut pas. Mais je restais quand même 5 ans sans avoir de papiers, c'était dur. J'avais même avec des lettres d'expulsion. Bon, on arrive à cacher gauche et droite jusque-là. Mais après, je travaillais dur dans les bâtiments, je me suis réussi. Après, j'ai créé ma société, j'ai travaillé, j'ai fait grandir mes enfants. Et c'est à peu près ça, non?
Comment parliez-vous français avant de venir en France? Et avez-vous des difficultés avec la langue? Comment cela se passe-t-il?
Je ne parlais rien du tout au début. Au début, je ne parlais rien du tout. Bon, quand les gens parlaient, je n'entends pas.
Au niveau de la langue française, votre fils est en classe spéciale UPE2A au collège pour apprendre le français. Comment cela se passe-t-il?
C'est un enfant que j'ai eu après mon deuxième mariage, parce que j'avais mon premier mariage que j'ai divorcé avec ma femme. Maintenant, je suis avec une autre femme. Il était en Guinée avec sa maman. Mais vu la situation de mon pays aujourd'hui, je voulais le laisser là-bas pour faire des études. Mais les écoles là-bas, ça traîne beaucoup. Il y a des écoles publiques, ça ne va pas jusqu'au bout, ça fait déjà 3 ans. Il faut payer les écoles privées, parce que ceux qui ont les moyens de le faire. Ceux qui n'ont pas les moyens, leurs enfants, ils n'ont pas d'école. Pour ça, au dernier moment, je suis décidé de revenir ici pour donner sa chance aussi d'avancer.
Trouvez-vous qu'il fait des progrès en français ou est-ce difficile?
Pour l'instant, je suis Madame Perron. C'est elle qui s'y occupe. Moi, j'ai confiance à l'école Jean Boulan. Je crois qu'avec vous tous ici, avec votre aide, ça ira.
Est-ce qu'il vous parle de l'école? Comment cela se passe-t-il avec ses camarades?
Il n'aime pas trop parler. Moi, je le force à parler, surtout au niveau du comportement, pour savoir comment être. Il faut savoir être, si tu veux avancer. Parce que moi, j'ai déjà fait grandir les enfants à l'école ici. Mes premiers enfants, ils ont déjà trentaine d'années là. Je connais bien les enfants. Quand ils vont, ils ne travaillent pas à l'école, ils rentrent, ils racontent tout à l'envers. Non? Mais quand ils travaillent bien, ils disent pas. Je connais bien ça. Moi, je ne suis pas les élèves, moi, je suis l'école ou les profs.
Et pour finir, pensez-vous un jour retourner dans votre pays et le souhaitez-vous?
J'aimerais bien, jusque-là, je suis à la retraite déjà. Mon objectif, c'était de rester là-bas, mais il n'y a pas encore de moyens, de conditions. Jusque-là, chez nous, regarde, on est à combien d'années d'indépendance? Cette année, on va faire 50 ans d'indépendance. 50 ans, oui, d'indépendance. On a eu déjà plus de 10 présidents, plus de 50 premiers ministres. Tous les jours, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Et c'est pas facile.
Merci, Monsieur Goncalves, pour votre participation.
Merci beaucoup.
Bonjour, Madame Titivol. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter rapidement et nous dire votre rôle et fonction dans l'association Accueil et soutien aux migrants de Villefranche?
Oui, bonjour. Accueil et soutien aux migrants est une association qui accueille, qui écoute, qui informe et qui oriente les migrants. Les migrants qui arrivent sur Villefranche. Donc, et ces personnes arrivent et ne connaissent pas les lois, ne savent pas où s'orienter. Alors, il y a les migrants, et c'est la majorité, qui viennent de pays, surtout on a beaucoup de migrants, de pays subsahariens. Oui, beaucoup. Et également, bon, quoique depuis un an, on a beaucoup également de migrants tunisiens et algériens. Et puis également des pays de l'Est. Alors, ils arrivent et souvent, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, tout dépend de leur situation, pourquoi ils sont venus. La plupart ils sont venus pour faire une demande d'asile. Ils ne sont pas venus pour des raisons économiques. C'est parce que dans leur pays, ça va très mal. Il y a la violence, même si on dit qu'il n'y a pas de guerre, mais il y a de la violence. Et comme disait monsieur, les ministres changent souvent, il y a des coups d'État, et plusieurs personnes ont fait de la prison dans leur pays et ont fui. Et ont fui la violence, et ils fuyaient même, ils risquaient de mourir. Donc là, on les oriente, on leur demande, ils vont faire une demande d'asile. Alors, la demande d'asile, c'est un grand parcours. Il faut une demande d'asile, donc il faut aller au Forum des réfugiés à Lyon. Ensuite, le Forum des réfugiés va les inscrire à la préfecture. À la préfecture, ils vont ouvrir un dossier de demande d'asile à l'OFPRA. L'OFPRA va étudier cette demande d'asile. Ça dure 9 à 12 mois. Et ensuite, également, ils feront aussi une demande à l'OFI qui va les aider pendant la demande d'asile. L'OFI, ils toucheront l'ADA. L'ADA, c'est une aide financière parce qu'il faut bien quand même... Voilà. Ensuite, et puis l'OFPRA donne sa réponse et la réponse, bon, souvent, est négative, à plus de 80%. Et là, il y a un autre parcours. Et c'est là également qu'on les accueille. Alors, on les oriente, on leur aide dans leurs documents administratifs, on les accompagne à la préfecture, à la sécurité sociale, dans toutes diverses administrations, et on leur aide également à faire leur courrier.
Quels sont les domaines où le besoin d'aide est le plus important ? Les papiers, le logement, le travail, la santé ? Et comment vous en occupez-vous ?
Alors, nous, on les aide surtout pour les documents, à remplir les documents. Ça, c'est l'aide qu'on peut apporter. Logement, non. La santé, ben, on les accompagne à la sécurité sociale, oui, pour remplir leurs documents. Mais pas pour le logement, non.
On oppose parfois les migrants et les réfugiés. Pouvez-vous nous dire pourquoi et de qui vous occupez-vous ?
Nous, on s'occupe des migrants qui arrivent sur notre sol français. Donc, ils sont réfugiés. Bon, ils sont réfugiés s'ils ont... Après, quand ils ont une demande d'asile, si la demande d'asile est acceptée, on ne s'en occupe plus. Là, nous, on s'occupe plutôt des arrivants. Hein.
Avez-vous beaucoup de personnes qui vous demandent de les aider et d'où viennent-elles ?
Donc, j'ai dit beaucoup de subsahariennes, donc Guinée-Conakry, beaucoup de Congo RDC, énormément, d'Angola, de Sierra Leone, des Comores aussi. On a beaucoup de Comoriens. De tout, je vous dis, puis Niger, Mali, Côte d'Ivoire, beaucoup de Côte d'Ivoire aussi, Sénégal, voilà.
Nous venons d'entendre M. Goncalves nous parler du problème d'apprentissage de la langue. Est-ce le point principal et comment vous en occupez-vous ?
Alors oui, nous, la première chose qu'on leur demande, c'est de prendre des cours de français. D'abord, c'est obligatoire maintenant. C'est obligatoire qu'ils passent l'examen A1 quand ils arrivent, autrement ils n'auront jamais rien. Ils n'auront jamais de carte de séjour. C'est obligatoire. Donc on les oriente vers la Croix-Rouge, vers l'association Amis, Lecture et Partage. Il y a de nombreuses associations, mais surtout la Croix-Rouge et Amis.
Votre association a-t-elle les moyens de bien s'occuper des migrants ? De quoi avez-vous besoin et qui vous aide ?
Alors, on a besoin d'argent, parce qu'on les accompagne également financièrement, parce qu'ils sont appelés à aller faire renouveler leur passeport, parce qu'ils n'ont pas de carte de séjour tant qu'ils n'ont pas de passeport. Ça, et la plupart arrivent sans passeport ou avec des faux passeports. Donc, on leur aide financièrement, et c'est à Paris. Alors, il faut payer également le transport. les passeports suivants, ça dépend, parce que toutes les ambassades ou les consulats sont à Paris. Donc voilà, ça entraîne énormément de frais. On paye la première carte de séjour. Le premier rendez-vous également, on les accompagne chez les avocats. Donc on paye le premier rendez-vous chez l'avocat. Vous voyez, alors c'est vrai qu'on a besoin d'argent. Et c'est uniquement des bénévoles qui nous donnent de l'argent. On ne touche absolument rien des administrations. C'est le bénévole.
Avant de nous quitter, donnez-nous les contacts pour rejoindre votre association.
Alors, nous tenons une permanence tous les 15 jours, le lundi, à 18h. Et même jour férié, nous sommes là. Lundi de Pâques, on sera là.
Merci, madame.
Alors, c'est à Bellini. C'est à Bellini, dans les locaux de l'église, qui est à côté de l'église de Bellini. C'est rue Condorcet.
Merci, madame Tivol, de toutes ces informations.
Merci.
Bonjour, madame Perron.
Bonjour, Amira.
Vous êtes professeur de la classe UPE2A du collège Jean Moulin. Merci de nous expliquer ce qu'est une classe UPE2A et à qui elle s'adresse.
UPE2A, c'est les initiales de unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Ce sont des cours de français destinés aux élèves qui viennent juste d'arriver en France. Ils ont une année pour apprendre le français. Et ils commencent à aller en classe ordinaire quand ils sont à peu près à l'aise en français.
Quel est votre parcours et votre motivation pour avoir choisi ce secteur dans l'enseignement ?
J'étais d'abord professeur de français classique en collège, mais j'ai toujours aimé enseigner le français à des élèves qui arrivaient de l'étranger. J'avais moi-même enseigné auparavant à l'étranger, aux Maldives, au Canada. Mayotte est français, mais avec des personnes qui ne parlent pas français de naissance. Donc, ils avaient aussi besoin d'apprendre le français comme si c'était une langue étrangère. Et ça m'a suivi. C'était un goût que j'avais. Et comme c'est possible de devenir professeur de français langue étrangère, c'est ce que j'ai choisi finalement après 16 ans d'enseignement classique.
Devez-vous parler plusieurs langues étrangères ? Et sinon, comment pouvez-vous apprendre le français à des élèves d'origine multiple ?
En faisant le clown. C'est-à-dire que je mime beaucoup. Et je compte aussi beaucoup sur la solidarité des élèves. Parce que dans une classe du PE2A, les élèves arrivent toujours au fur et à mesure de l'année. Donc, il y a toujours des anciens dans la classe et des nouveaux. Donc, les élèves ont l'habitude de savoir comment on commence à apprendre les premiers mots de français. Donc, les élèves s'entraident beaucoup. Et bon, je guide aussi, bien sûr, mais voilà, je ne parle que anglais.
Combien avez-vous d'élèves dans votre classe ? Quels sont leurs pays et leur et langue d'origine ? Suivent-ils aussi les autres cours avant de bien parler français ?
Alors, les élèves sont 20. Dans la classe, maximum. Après, il y a des petits aménagements de temps à autre. Ils ne sont pas toujours 20 parce qu'il y en a qui sont en cours de classe ordinaire. Ensuite, leur pays d'origine, cette année, ça change chaque année et ça change tout au long de l'année. Cette année, les élèves viennent de Thaïlande, de Turquie, de Bulgarie, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Guinée-Bissau, du Nigeria, d'Algérie, de Maroc, de Tunisie. Et j'espère que je n'oublie personne. De Roumanie aussi.
On dit souvent que la langue française est une des plus difficiles du monde. Est-ce vrai et comment contournez-vous ce fait ?
Le souci, c'est l'écriture, en fait, principalement. C'est-à-dire qu'en fait, dans beaucoup de langues, on écrit comme on parle. Et par exemple, les élèves ont découvert dans la semaine qu'il y avait 7 manières d'écrire « est » pour eux. C'est-à-dire qu'on n'est même pas au maximum des possibilités, mais eux-mêmes, juste avec leur français encore un peu hésitant, ils se sont rendus compte qu'il y avait 7 manières d'écrire « est ». C'est très difficile. Pour ça, c'est très difficile.
Êtes-vous satisfaite des moyens que vous avez pour votre travail et de vos résultats ?
Je suis très contente des résultats des élèves avec les moyens, voilà, un peu... on veut toujours plus, en fait, pour les élèves. On veut toujours qu'ils aient plus de moyens de découvrir la France, plus de matériel électronique pour aller plus vite, plus de... Voilà, mais non, ils travaillent très, très bien. Et c'est vrai qu'au Collège Jean Moulin, on peut très, très bien travailler en UPE2A. On a beaucoup de chance.
Pensez-vous que l'apprentissage d'une autre langue modifie la mentalité des élèves ?
Oui, ça rend curieux, forcément. Parce qu'en apprenant une langue, on apprend un autre état d'esprit, en fait. Donc, et on a souvent des élèves qui ont, comme vous avez entendu M. Goncalves tout à l'heure, et Mme Tivol, qui racontent des histoires de vie de gens qui ont traversé énormément de choses. Donc, on a des élèves qui ont vécu déjà énormément. Ils arrivent ici pour apprendre la langue, mais ils portent déjà un bagage énorme. Donc, ils ont déjà beaucoup vécu. Donc, effectivement, ils partagent dans la langue française tout ce qu'ils ont vécu. On a beaucoup de chance.
Comment jugez-vous les relations entre vos élèves et les autres élèves ?
C'est très variable. Ça dépend des langues des élèves aussi. Parfois, certains enfants du collège ici ont des langues en commun avec les élèves qui arrivent de l'étranger. Donc, c'est commode pour eux d'échanger certaines choses. Mais on insiste beaucoup pour faire des projets ensemble. Donc, l'année dernière, on a participé à un jeu, par exemple, qui mêlait des élèves de 5e et des élèves du PE2A pour apprendre les différents plats dans les différentes langues. C'était très, très intéressant.
Nous allons écouter, après cette rubrique, des poèmes haïku réalisés par vos élèves. De quoi s'agit-il ? Et pour vous, la poésie et la culture, en quel rôle dans votre travail ?
Ces poèmes ont été écrits en compagnie de Thierry Renard, qu'on a entendu tout à l'heure, dans la classe. Et donc, ça a permis la forme du haïku, très courte, d'utiliser le français que les élèves avaient à disposition. Donc, il leur a donné confiance, il les a fait sourire et ils se sont sentis à l'aise pour écrire des petites poésies, donc des haïkus, qu'on entendra tout à l'heure, effectivement. Et la poésie, c'est quelque chose que les élèves ont l'habitude d'utiliser, d'entendre, en particulier dans les chansons, dans leur propre langue, en fait. Donc, finalement, la poésie en français, ça leur convient bien aussi, puis c'est souvent plus à l'oral, plus qu'à l'écrit. On revient toujours au même problème du français à l'écrit, donc ils aiment bien la poésie à l'oral. Et c'est un moyen très commode et de mémorisation et de partage.
Merci Madame Perron de toutes ces informations.
Merci Amira.
Avant de poursuivre l'émission, nous allons écouter des poèmes haïku créés par certains de vos élèves. Ce sont Isma, Mehmet et Mélissa.
Les arbres tombent, ils m'ont sauvé la vie, je reste seul.
Un peu triste, un peu content, nous dessinons le vent qui emporte les feuilles.
J'aime rester toute seule parce que la vie est triste comme un papillon.
J'ai traversé les frontières, croyant que mon cœur sonnerait moins là-bas. Je vais finir par m'y faire. J'aurai jamais heureux comme papa. Ta mère dit si on cherche pas d'amis, nos rêves nous séparent, je ressens le vide. Pourquoi tu tournes autour des mots? J'suis seul, la lune me tourne le dos. Je rentre à la maison, dors, je cherche réponse. J'aime pas ton monde, parfois je me fonce. Ce que charbonne est planté toute la journée. Garde le cœur en apnée pour pas couler. Toi t'étais mieux avant, je te connaissais moins. Maintenant je me sens mieux quand je suis loin. J'ai pas besoin de ma gueule. Je sais qui je suis quand je suis seul. T'es mieux avant. Comme le temps. Moins de sentiments. Plus d'argent. Toi t'es mieux avant. Comme le temps. d'argent. J'ai tout, pas rien, je m'en veux. Mon cœur coupé en deux. Je suis sale, t'aimes les belles choses, pourquoi tu m'aimes? Je réponds jamais quand tu me demandes pourquoi tu sais. Bah non, bah non. Je suis vénère toute la journée. Je m'hydrate un litre de sel dans la gourde. Un sauvage dans la foule. Animal qu'on dresse pas sous la douleur. Je partageais entre le dîner, entre le hlam. J'ai besoin de ton avis. Baba m'a dit fort et le pléonasme quand je dis que je suis mort à vie. Je suis loin dans mes pensées, je préfère être franc, je vous déteste tous. En chien, je me suis forgé, un cœur de loup, la laisse m'étouffe. T'es jaloux de moi, pourquoi tu m'aimes? Je réponds jamais quand mon âme passe sous un tunnel. Tu sais, j'ai comme un problème, un truc qui me gêne dans la tête. Et j'aimerais te faire des poèmes, mais je gâcherai tout avec un je te baisse le watt en l'air face au monde. J'avais rien quand je crevais. Tu me cherches toute ma haine, tu vas te revoir.
T'es mieux avant.
À l'instant, nous venons d'écouter le titre Frontières du groupe PNL. PNL est un groupe de rap français composé de deux frères, Ademo et NOS. De leur vrai nom, Tariq et Nabil Andrieux. Ils se sont lancés dans le rap en 2014. Les deux frères ont même réussi à inventer un nouveau courant musical appelé le cloud rap. Nous avons choisi ce titre car il parle des frontières que l'on peut se fixer soi-même. Pour continuer notre émission, nous allons écouter la lecture de Sans frontières fixes, un poème de Jean-Pierre Siméon. C'est Charline qui vous propose ce texte. Ensuite, nous passerons à la rubrique suivante, intitulée Les frontières de la vie caladoise. Bonne écoute.
Voilà ce qu'ils disent. L'anémone est plus intelligente que la rose, le sable est plus beau que le chat, et la pierre a toujours été supérieure au potiron. Ils reprochent au noir d'être plus noir que le blanc, comme si on reprochait au feu d'être plus chaud que la neige, et au miel d'être plus sucré que la vague. Et s'ils ont peur de leur ombre, c'est qu'ils se doutent un peu que haïr l'étranger, c'est avoir peur de soi.
Radio 694, des ondes sans frontières.
Le thème cette année du Printemps des poètes était « Frontières ». On entend beaucoup parler de frontières. C'est un mot qui rassure et qui inquiète à la fois, qui protège et qui est une source de conflit. Quand une cause se veut noble et humaine, elle se nomme souvent sans frontières. Nous recevons M. Ravier, maire de Villefranche, pour parler des frontières dans la ville. Bonjour M. le maire.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, aimez-vous la poésie ?
Oui, j'aime beaucoup.
En lisez-vous régulièrement ?
Pas autant que je devrais, mais si, si, ça m'arrive régulièrement. Ouais.
Quel poète préférez-vous ?
Ah, j'en ai plein. Je suis comme monsieur, j'ai une petite tendresse particulière pour Arthur Rimbaud, mais je crois que c'est le côté « le mot se mêle de vent » qui me fait plaisir et rêver. Et puis j'aime beaucoup un poète contemporain, malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, qui est Christian Bobin, alors des fois un peu... décrié pour des réseaux X ou Y, mais que j'aime beaucoup.
Pour vous, en général, une frontière, cela vous fait penser à quoi ?
On a toujours la même réaction assez spontanément, on pense aux frontières entre les États, mais c'est vrai que je crois aussi beaucoup... Enfin, les frontières, c'est les limites. Il y a les limites qu'on se fixe nous-mêmes, il y a les limites qui sont nécessaires aussi dès qu'on est en groupe, il y a... les frontières aussi dont on n'a pas toujours conscience, hein, qui ne sont pas toujours conceptualisées, et puis celles sans doute les plus dangereuses, celles qu'on se fixe à nous-mêmes.
Et à Villefranche, qu'est-ce qui fait ou peut faire frontière ?
Il y a plein de choses. Il y a des frontières géographiques dans une ville. Quand, par exemple, une ville est traversée par une voie ferrée, par une autoroute, c'est une frontière aussi entre des secteurs de la ville. Il y a la frontière de l'habitat, parce que les quartiers ne sont pas conçus de la même manière, avec les mêmes accès, les mêmes facilités pour certains. Certains sont plus excentrés que d'autres, donc c'est aussi des distances, donc des formes de frontières. C'est les frontières comme on peut retrouver dans toutes les villes, entre des fois les générations, parce que c'est la nécessité de la bonne compréhension entre les générations. Ce n'est pas toujours si simple que ça. Je pourrais en énumérer beaucoup des frontières. Et puis, il y a des frontières aussi nécessaires. Hein, le savoir-vivre, le respect de l'autre, c'est des frontières aussi qu'on se fixe à nous-mêmes et qui sont utiles dans la vie en collectivité.
On voit que les frontières ne sont pas que physiques. Quelles peuvent être les raisons principales des autres frontières ?
Moi, je crois qu'il y a souvent un phénomène de reproduction, c'est-à-dire on est tous nés dans une famille, dans un parcours, dans un milieu social, etc. Et on hérite tous un petit peu de ça. Donc ça nous fixe aussi, des fois inconsciemment, hein, des frontières d'usage, parce qu'on n'est pas habitué... Je vois Laurent Bézet, par exemple, qui est président de l'association du théâtre de Villefranche. Il y a beaucoup de gens qui pourraient aller au théâtre et des fois qui n'osent pas franchir la porte du théâtre parce que, par éducation, on ne leur a pas transmis cela, on ne leur a pas appris, ils ne l'ont pas fait en famille, tout simplement parce que ce n'était pas le mode de vie, ce n'était pas l'usage. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de frontières qu'on hérite de notre enfance, de nos parcours, involontairement, mais qu'il faut apprendre à remettre en question...
Comment la mairie fait-elle ou peut-elle faire pour réduire les frontières physiques ou géographiques ?
Alors ça, il y a du boulot. Mais par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. L'écoquartier où il y a le cinéma aujourd'hui, je parlais de la voie ferrée tout à l'heure qui est une vraie frontière dans la ville. Hein, parce qu'à l'époque, je vais être très court et simple, mais les vents sur notre secteur vont de l'ouest à l'est. Donc en fait, on mettait plutôt les belles maisons à l'ouest, hein, ce côté de la voie ferrée, puis on mettait plutôt ce qui était moins intéressant de l'autre côté, parce que les vents des usines à l'époque étaient portés là-bas. Donc ce côté est est en principe un peu moins réputé, moins qualitatif, moins apprécié. Ça s'empampe dans les prix de l'immobilier, par exemple. Quand on fait l'écoquartier, l'idée justement, c'est de réenjamber ce secteur pour remettre des choses importantes, comme le multiplex de cinéma ou d'autres choses, pour essayer de casser un petit peu cette limite. C'est un exemple hein, parmi les autres.
Et pour les autres frontières, que met en œuvre la mairie pour les limiter ?
Ah ben, moi, je pense que la meilleure manière de limiter les frontières, vu que je disais que ça vient beaucoup de l'enfance et aussi de l'héritage familial, social, je crois que le meilleur investissement, c'est les lieux comme celui où on est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est l'école. C'est là où on apprend avec d'autres adultes, avec des professeurs, avec d'autres camarades qui n'ont pas les mêmes parcours à dépasser aussi ces limites. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que vous étiez tous forcément des grands adeptes de poésie il y a deux mois. Ben, finalement, vous avez appris à dépasser une limite en vous y intéressant. Je ne suis pas sûr que vous destiniez à faire des interviews radio du maire. Bon, vous en faites une aujourd'hui, vous avez eu des brillants intervenants avant et ça va aussi susciter des goûts. Donc ça, c'est une belle manière aussi d'effacer nos frontières.
Vivre ensemble dans la ville, c'est aussi partager les routes. À l'heure du réchauffement climatique, comment rendre la ville plus accessible aux piétons et aux deux roues ?
Alors, ça, c'est une. Il y a d'abord une première frontière à délimiter là-dedans. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, la frontière de son désir à soi pour cohabiter avec les autres. Il y a des piétons. Moi, par exemple, je suis plutôt dans cette catégorie. Il y a des cyclistes. C'est des bons modes de déplacement aussi qu'il faut valoriser. Donc, on essaye de faire des pistes cyclables, enfin, de développer tout ce qui peut permettre les modes doux. Il y a aussi des gens qui prennent leur voiture parce qu'ils sont obligés de le faire. Donc, la première frontière, c'est de trouver le bon équilibre, les bonnes limites pour permettre aux uns et aux autres de cohabiter ensemble. Après, sur les recettes pour permettre aux piétons et aux cyclistes d'être plus nombreux et d'être mieux, ben, par exemple, dans le centre-ville, il y a quelque chose qui s'appelle une zone 30. J'en ai pas encore bien compris exactement toujours ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'on se limite la vitesse à 30 quand on est en voiture, mais c'est-à-dire surtout que les piétons et les cyclistes sont prioritaires, par exemple.
Pour finir, on aimerait vous parler de nous, les enfants, les collégiens, les lycéens, qui aimons peu les frontières et les limites. À Villefranche, on a parfois l'impression d'être bloqué dans nos activités. Que peut faire la mairie pour nous ?
Ben, d'abord, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ? C'est-à-dire, d'abord, c'est de l'exprimer. C'est intéressant, puisque là, on parle de limites, mais d'abord, savoir lesquelles. Sur quoi vous êtes bloqué ? Est-ce que vous êtes capable de, vous réunissant comme ça, de définir ce qui sont pour vous les choses les plus bloquantes et de se faire entendre. Ensuite, il y a des tas de choses qui peuvent être faites dans tous les domaines, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient dans l'usage de la ville. Mais la première des choses, on parlait des limites qu'on a en nous-mêmes, c'est de ne pas se cantonner à exprimer une frustration, mais c'est de la formuler et de la revendiquer en sollicitant.
Merci, monsieur le maire.
Merci à vous.
Nous avons appris que la cohésion sociale, donc la diminution des frontières, revenait à bien vivre ensemble. Nous recevons à présent Madame Baudu-Lamarck, adjointe à la cohésion sociale de la ville. Bonjour Madame l'adjointe.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Pour commencer, même question que Monsieur le maire. Aimez-vous la poésie ?
Alors, ce serait difficile de dire que je ne l'aime pas aujourd'hui. Hein. Donc, j'aime la poésie. J'aime la poésie parce qu'elle fait rêver, parce qu'elle fait créer et parce qu'elle libère l'imagination.
En lisez-vous régulièrement ?
Absolument pas. Par contre, j'aime beaucoup l'écouter. Et j'ai pris beaucoup de plaisir lorsque nous étions au théâtre il y a quelques jours à vous écouter, vous, amis poètes, à lire les textes créés par les jeunes caladois. Et ça, c'était un véritable plaisir pour moi.
Quel poète préférez-vous ?
Alors, j'ai été longtemps, très longtemps enseignante en primaire. Et si Maurice Carême n'avait pas existé, je ne sais pas où j'aurais puisé tous les beaux textes de poésie que j'ai proposés à mes élèves à apprendre.
Villefranche est une ville traversée par de nombreux obstacles au déplacement. Qui peut faire frontière ? La Saône, l'autoroute, la voie ferrée. Les quartiers sont également nombreux. De quelle manière assure-t-on la cohésion d'un tel territoire ?
Alors déjà, c'est en connaissant le territoire, en se déplaçant dans le territoire, en allant vers les habitants des différents quartiers, de l'autre côté de l'autoroute, dans plein centre, etc. Et puis, c'est travailler en lien directement avec les associations. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'associations à Villefranche qui œuvrent avec les différentes générations, aussi bien pour les jeunes, pour les adultes, pour les personnes âgées. Et donc, c'est travailler en lien avec elles, pour connaître les besoins et accompagner au mieux en fonction des besoins des Caladois.
Quelles solutions proposez-vous contre la violence dans certains quartiers et pour aider les gens à vivre ensemble, quels qu'ils soient ?
Alors, la violence, ça, c'est quelque chose de très compliqué. La violence n'est même pas que dans certains quartiers. La violence est partout. Je pense que pour justement limiter cette violence, eh bien, ça passe d'abord par vous, les jeunes. Et d'ailleurs, vous verrez, vous allez constater que dès qu'on fait une grande campagne, par exemple contre le harcèlement, contre l'obésité, contre certains médicaments, on passe toujours par les jeunes. Parce que en fait, c'est vous, les jeunes, qui êtes les adultes de demain. Et lorsque vous comprenez les messages que l'on veut vous faire passer, vous grandissez avec et vous êtes capable de changer notre société.
Il y a aussi des inégalités, des barrières et parfois des conflits entre les hommes et les femmes. Comment peut-on les faire tomber ?
En tâchant de communiquer au mieux. Et pour communiquer, déjà, il faut pouvoir parler la même langue. Donc, il y a à Villefranche plusieurs associations qui ont été nommées d'ailleurs précédemment, que ce soit Mille, la Croix-Rouge, Mille et Une, qui proposent des cours de français. Parce que pour être bien et vivre tous ensemble, il faut d'abord communiquer avec une même langue. Et donc, ça permet d'avoir, pour certains adultes qui arrivent ici, d'apprendre la langue française.
Un autre sujet important aujourd'hui, c'est celui de la pollution. Certaines heures, la circulation caladoise est bien difficile. Faut-il laisser plus de place aux piétons, aux cyclistes, aux trottinettes et comment ?
Alors, il faut de la place pour tout le monde. La cohésion sociale, c'est justement que chacun trouve sa place. Donc, l'idéal, dans un monde idéal, ce serait évidemment que tous les véhicules roulent à l'électricité. D'accord, qu'il n'y ait plus de bruit non plus, parce que le bruit fait partie de la pollution également. Donc voilà, ce serait un monde, pour le moment, idéal. On ne peut pas imposer non plus l'électrique à tout le monde, parce que ça ne peut pas correspondre aux moyens financiers de chaque personne. Donc ça va être un travail vraiment, vraiment sur du long terme.
Pensez-vous que par l'école, les élèves peuvent apprendre à bien vivre tous ensemble? Et comment aidez-vous les écoles pour cela?
Alors, les écoles sont les premiers lieux où on apprend à vivre ensemble. D'ailleurs, le vivre ensemble est un terme dans l'éducation nationale qui existe depuis bien plus longtemps que ne l'utilisent les hommes politiques. Donc, je reprends un peu l'idée de tout à l'heure, c'est-à-dire que les messages principaux et l'éducation passent justement par les établissements scolaires. Donc c'est pour ça qu'on soutient l'éducation scolaire. Alors à Villefranche, on a travaillé pour obtenir un label qui s'appelle Cité éducative. Donc vous en avez peut-être entendu parler. Donc vous avez ici Alexis Vallon, votre principal, accompagné de Madame Aubry, qui sont les représentants de l'éducation nationale au sein de notre cité éducative. Nous avons également un délégué du préfet qui s'appelle Sambagué. Et nous avons également au niveau de la ville, donc je suis l'élu référent de la cité éducative et je suis accompagnée de Géraldine Drillet, qui est un agent de la ville et qui coordonne cette cité éducative. Et en fait, le principe de la cité éducative est justement de permettre à tous les jeunes caladois, caladoises, dès leur plus jeune âge, de pouvoir s'insérer dans la société et pouvoir s'insérer professionnellement, c'est-à-dire obtenir un travail à la fin de leurs études.
Monsieur le maire, voyez-vous quelque chose à ajouter sur tous ces points?
Je propose que tu formules, je dis tu, hein, je me permets, toutes les revendications pour lever les blocages de la jeunesse et qu'on puisse en reparler ensemble, comme ça on s'aidera mutuellement à dépasser nos propres frontières.
Merci pour toutes vos réponses.
Merci.
Merci.
Pour toutes ces très bonnes questions.
Ouais. D'où je viens? Très loin. Où je vais? Personne ne sait. En attendant, je vous dis où je suis.
On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantaient, les réquiems que je me chante. Je joue dur chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, monte jamais tes faiblesses et dans le pire. Reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle âme. Donc je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire, je craque dès qu'on tourne le dos. Je marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, je fais face à mes nuits. Chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul. Fête de famille et tout ce qui rappelle ma plus belle vie. Je suis jaloux de vous les chanceux qui prenaient votre chair et votre sang pour acquis. J'ai horreur de votre pitié, je prends très mal votre générosité. Ça fait déjà un bout que je me suffis, c'est pas vrai mais pour être fort, c'est ça que je me dis. Quoi qu'il arrive, faut que je reste dans mon rôle. Ouais. Quoi qu'il arrive, faut pas que je perde le contrôle. Ouais. Je pense à moi avant le reste du monde, car avec les années je me suis rendu compte que si c'est pas moi, ce sera personne. Pas lui, pas toi, ni personne. Ici, bas, c'est chacun pour soi. Pour les pauvres et fiers, solitaires comme moi. Quand je pense à ma vie, seul face à mes nuits, chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le faire, je suis seul.
Nous vous avons proposé le chanteur Corneille, avec son titre « Seul au monde ». Corneille est un chanteur et compositeur depuis 1993. Il est né en Allemagne, puis est allé vivre au Rwanda, puis au Canada. Il a fait du R&B et il se fait découvrir en 2002, notamment à la radio, avec son album « Parce qu'on vient de loin ». Le morceau « Seul au monde » part de la mise à l'écart et de la solitude. Nous poursuivons notre émission avec la lecture d'un extrait de « J'arrive où je suis étranger » du grand poète Louis Aragon. Merci à Aya pour la lecture de ce texte.
Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre, et pour le vent, être léger. J'arrive où je suis étranger, un jour tu passes la frontière. D'où viens-tu? Mais où vas-tu donc? Demain qu'importe, et qu'importe hier. Mais l'enfant, qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus.
Radio 694, des ondes sans frontières.
Voilà, notre émission se termine. Nous espérons qu'elle vous a plu et vous remercions, chers auditeurs, de votre écoute. Nous remercions tous nos invités qui ont gentiment répondu à nos questions. Nous remercions aussi nos professeurs qui nous ont accompagnés tout au long de cet atelier radio. Nous remercions enfin l'équipe de Radio Calade de nous avoir fait découvrir le monde de la radio et permis de mener à bien notre émission. Les élèves de 4e du collège Jean Moulin vous ont présenté l'émission Les Ondes sans frontières sur Radio 694. N'hésitez pas à nous retrouver sur les ondes de Radio Calade, le site www.radio-calade.fr, comme sur la page Facebook de la radio. C'était Sohan, et tous mes camarades se joignent à moi pour vous dire...
Radio 694,
des ondes sans frontières.
100.9, Calade.
Une émission réalisée par les élèves pour parler de frontières et de poésie.
Radio 694,
des ondes sans frontières.